Il est 5h.
Plus que prête. Hein. Je suis heureuse de reprendre une vie normale, de retrouver les petites clientes, les sourires. J'en ai la chair de poule. Tellement je suis contente.
Dans une heure, la fin du couvre-feu et les rideaux qui vont commencer à se lever pour les cafés, notamment des commerçants impatients. Une réouverture toutefois sous condition, avec notamment des jauges de fréquentation. Le détail dans un instant. Dans ce journal aussi, la mobilisation des policiers ce mercredi, la bataille de l'Arctique et la convocation de Karim Benzema en bleu. Même sa famille n'était pas au courant.
À suivre, votre journal des sports et notre pressing du matin. Et puis on sera dans le Morbihan tout à l'heure chez notre ostréiculteur Renan Henry pour les doigts dans l'assiette. Très bon réveil.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Certains d'entre eux s'affairent déjà. Les commerçants s'apprêtent à reprendre du service aujourd'hui. Une réouverture préparée jusqu'à la dernière minute hier, comme l'a constaté Nicolas Feldman, rue du Commerce, dans le 15e arrondissement de Paris.
C'est les réservations affluent.
Commerce Café, bonjour.
Bonjour, je vous appelle pour savoir s'il faut réserver.
Madame, je suis sincèrement désolé, on ne prend aucune réservation.
Pas de réserve, premier arrivé, premier servi.
On est sous pression.
Il va y avoir un gros afflux de Parisiens. Hein. Là, je suis en train de passer les oranges et les citrons, hein, afin de faire une bonne mise en place, des cocktails, etc. Quoi.
Marcel, vous êtes le gérant, comment vous allez organiser votre terrasse?
Alors regardez, donc sur le devant, on va aligner toute la terrasse qui est à peu près 70 places. Et comme on a le droit d'extension de terrasse, on va s'étaler devant le square. On n'a rien laissé au hasard.
Bonjour madame, vous allez bien?
Je galère depuis une heure. Moi je suis en train de nettoyer la vitrine.
Les boutiques commencent à revivre, les portes s'ouvrent, voilà, on nettoie, on met tout en place. Tout le monde est ravi de se retrouver.
Delphine, on est dans votre boutique de vêtements, alors le présentoir est bien en ordre, la collection est arrivée, vous êtes prête?
Ah ben plus que prête, je suis heureuse de reprendre une vie normale, de retrouver les petites clientes, les sourires, j'en ai la chair de poule, tellement je suis contente.
Voilà, le retour à une normalité relative. Hein, toutefois, les bars et restaurants ne pourront rouvrir qu'à 50% hein, sur les terrasses. La capacité d'accueil restera limitée dans de nombreux établissements, des magasins au cinéma.
Oui, car si les chiffres de l'épidémie continuent de refluer, la vigilance n'en reste pas moins de mise avec un protocole sanitaire strict à respecter. Pour Europe 1, Maude Descamps.
Il y a évidemment le port du masque qui reste obligatoire partout, en intérieur et en extérieur. Cela ne change pas. Il faudra également veiller à bien se désinfecter les mains à l'entrée. Une procédure obligatoire dès l'âge de 11 ans. Et comme dans les commerces essentiels, les clients seront incités à venir avec leur propre sac et à privilégier le paiement par voie électronique. Mais le protocole ne s'arrête pas là. Comme le détaille Damien Desforêt, directeur général des magasins CEA.
Tous nos collaborateurs seront équipés de masques et voire même de gants afin d'être sûr qu'il n'y a absolument aucun risque. Quand vous allez passer en caisse, bien sûr, il y aura un plexiglas. Et pour le moment, nous avons pris la décision de fermer les cabines d'essayage et pour fluidifier le flux client, il y aura tout un petit parcours indiqué au sol avec des flèches.
Que ce soit les commerces d'habillement ou les lieux culturels comme les théâtres, musées et cinémas, il y a une jauge à respecter dès aujourd'hui, 8 mètres carrés par client ou visiteur. Celle-ci passera à 4 mètres carrés le 9 juin et il faudra attendre le 30 juin pour revenir à une capacité d'accueil de 100%.
Retour progressif donc à la normale, ce qui arrange bien certains Français, hein, car tout le monde n'a pas l'intention aujourd'hui de se ruer au restaurant ou en boutique.
Certains vont en effet conserver les habitudes adoptées pendant le confinement. Les spécialistes appellent ça le syndrome de la cabane, la peur de sortir de son enfermement et de se confronter à nouveau au monde. Explications et témoignages avec Victor Dolande pour Europe 1.
Mathieu a contracté le Covid il y a 7 mois. Après 3 semaines d'immense fatigue, il a été hospitalisé pour un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Une immense frayeur, des séquelles encore bien présentes. Et comme il n'est pas encore vacciné, il craint d'attraper une deuxième fois la maladie.
J'ai failli mourir, j'ai failli perdre ma famille, j'ai failli perdre tout ça. Forcément que j'ai peur. Donc ça veut dire que réinfection, retourner juste en terrasse pour boire un café, honnêtement, je préfère le boire sur ma terrasse en toute sécurité.
Cet homme de 42 ans est pourtant persuadé que les professionnels mettront en place et feront respecter le protocole sanitaire. Il redoute davantage le relâchement des Français. Un sentiment partagé par Yaël, cadre dans une entreprise parisienne. Pour elle, ce sera un café en terrasse éventuellement. Mais rien de plus.
Je ne serais pas encore à l'aise d'aller à des concerts. C'est pas de ça dont j'ai envie, en fait. Je ne voudrais pas participer, en tout cas, à une quatrième vague. Là, on n'en est pas à se retrouver tous ensemble en mode 14 juillet.
Pour ces Français qui ne voient pas d'un très bon œil ce déconfinement, le seul sésame pour se relâcher et se rassurer, c'est la vaccination.
Victor Dolande, l'adoption par les sénateurs du projet de loi de sortie de l'état d'urgence, un texte largement remanié, notamment sur le pass sanitaire, dont le principe a tout de même été validé.
Il est 5h05 sur Europe 1, ils l'ont appelé la marche citoyenne. Deux semaines après l'assassinat d'Éric Masson à Avignon, mobilisation des policiers devant l'Assemblée nationale à Paris.
Rassemblement à partir de 13h tout à l'heure, avec l'espoir d'être soutenu par des anonymes, des Français de tous horizons, des policiers d'ores et déjà soutenus par les responsables politiques, du PCF au Rassemblement National. De nombreux élus ont déjà annoncé leur présence, seuls les insoumis font exception. Présent aussi le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Dans ce contexte, l'un des enjeux pour les syndicats, ce sera d'éviter toute récupération par les responsables politiques, hein, Guillaume Bier.
C'est clair qu'ils ne seront pas les bienvenus à la tribune. Les syndicats de police sont unanimes sur ce point. Ils l'ont encore rappelé hier. Pas question pour eux de laisser un quelconque élu faire un discours cet après-midi. Personne ne confisquera la parole des policiers et des citoyens, disent-ils d'une seule voix. En résumé, ces syndicalistes veulent faire de ce rassemblement un moment de cohésion et de soutien populaire, en présence d'anonymes et de personnalités, d'artistes, de familles de policiers et gendarmes victimes. Quant aux élus de tous bords, ils seront les bienvenus, y compris Gérald Darmanin. La présence d'un ministre de l'Intérieur en exercice sera d'ailleurs une première pour une manifestation de ce type. Mais pour autant, aucun responsable politique ne montera à la tribune. Seuls les policiers veulent exprimer leur colère et réclamer l'instauration de peines planchers pour leurs agresseurs.
Guillaume Bier, un jeune homme de 17 ans tué par arme blanche hier soir à Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. Trois personnes, dont un mineur, ont été interpellées. Les circonstances du drame restent floues. Pour l'heure, les enquêteurs penchent pour un règlement de compte entre deux personnes.
5h07 à l'étranger, c'est un espace que se disputent de plus en plus vivement les Russes et les Américains. L'Arctique est au menu d'un sommet aujourd'hui et demain en Islande.
Oui, une dizaine de pays qui bordent cette zone vont se retrouver avec l'enjeu stratégique de ce territoire du pôle Nord, entre perspectives d'exploration pétrolière et gazière et ouverture de nouvelles routes maritimes permises par la fonte des glaces. Les chefs de la diplomatie russe et américain vont se retrouver à cette occasion et pour la première fois en Islande. La Russie qui s'affirme dans la zone sur le plan militaire, Jean-Sébastien Soldaini.
Si les Russes voulaient afficher une pancarte « Arctique chasse gardée », ils ne s'y prendraient pas autrement. Moscou a doublé le nombre de bases militaires en 15 ans sur la zone et le chef de la diplomatie vient de le rappeler. L'Arctique, ce sont nos terres et notre territoire. C'est surtout leur machine à cash. La moitié du budget de l'État vient des immenses champs pétroliers et gaziers du Grand Nord. Alors Alexandre Tête, chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique, reste persuadé que, malgré la fermeté affichée, la Russie n'a aucun intérêt à froisser ses voisins.
L'avenir de l'équilibre financier de la Russie est bien en Arctique. Et en fait, aujourd'hui, la Russie va surtout sortir son gaz et son pétrole par des méthaniers brise-glace, par des tankers brise-glace qu'elle est en train de construire. Et donc, elle a besoin de relations pacifiées pour sortir ce gaz et de pétrole qui est indispensable à son économie.
Les Américains appellent à ne pas militariser l'Arctique. Ce n'est a priori pas une question de sécurité, mais de liberté de circulation. Car en prenant contrôle de la zone, Moscou pourrait instaurer un droit de passage aux navires de commerce tentés par la route du Grand Nord.
Jean-Sébastien Soldaini, enfin le football pour terminer et la fierté de Karim Benzema. Surprise hier, l'attaquant du Real Madrid est bien convoqué pour l'Euro de foot le mois prochain.
Surprise aussi pour la famille du joueur qui habite toujours en banlieue lyonnaise. Témoignage avec Jean-Luc Boujon pour Europe 1.
Sa rencontre il y a quelques semaines avec Didier Deschamps, prémisse de son retour aujourd'hui en équipe de France. Karim Benzema n'en a parlé à personne. C'était un secret, y compris pour sa famille et notamment son petit frère Fabri, 22 ans, qui habite toujours à Bron, la ville de naissance de Karim le mystérieux.
Il est resté muet hein, du début à la fin, rien du tout. Il nous a fait la surprise. Vous imaginez, hein, depuis 2015, on attend ça. Hein. Vraiment, c'est un bonheur. Quoi. Je ne sais pas comment vous le dire, mais je suis très content déjà pour nous et pour lui. Avec tout le travail qu'il fournit depuis ces années, et voilà, il est enfin récompensé. Ce n'est pas une revanche, c'est surtout une fierté et on est content pour lui. J'espère qu'on va le remporter, cet Euro.
Car dans la famille Benzema, on mesure encore mieux ce que Karim peut apporter aux Bleus, pourtant déjà champion du monde. Une touche technique, offensive et spectaculaire. Son oncle Farid en salive d'avance.
C'est une attaque de feu. Griezmann, Benzema, Mbappé. Je veux dire, il y a quand même du potentiel. En plus d'avoir de la gueule, ça va faire peur aux défenseurs. Quoi. Je veux dire, quand on est défenseur et qu'on a un Benzema, derrière on a un Griezmann, et derrière on a un Mbappé, on n'a pas le temps de réfléchir. Quoi.
Reste à savoir maintenant si Benzema sera titulaire en attaque à la place de Giroud. En tout cas, personne dans sa famille ne l'imagine revenir 6 ans après pour cirer le banc. Bron, Jean-Luc Bougeon,
Europe 1. Et retrouvaille le 26 mai hein, avec les Bleus pour Karim Benzema.
Merci, c'était le journal de Marion Calais. Il est 5h10. Le journal des sports avec Cédric Chasseur. Bonjour Cédric.
Bonjour Théo, bonjour à tous.
Et on en parlait donc à l'instant, Didier Deschamps a dévoilé sa liste des 26 pour l'Euro avec donc Karim Benzema.
La rumeur qui a couru toute la journée hier a donc été confirmée par Didier Deschamps lui-même sur les coups de 20h20. Il s'en est expliqué ensuite au micro de Cyril de la Morinerie.
Ce que je peux vous dire, c'est que Karim n'est pas stupide, il est même intelligent. Il sait très bien qui vient dans un groupe, qui a un vécu, qui a des repères. Comme toute équipe, il est dans une équipe qui a gagné beaucoup de titres. Et dans ces équipes-là, on va prendre la formule, ils ne sont pas tous amis. Mais il y a une ambiance forcément en dehors du terrain et sur le terrain qui est bonne pour arriver à, s'ils ne peuvent pas se blairer et qu'il y a des problèmes, je veux bien qu'il n'y ait qu'une vérité, c'est celle du terrain, d'accord, mais ben voilà, il y a une je ne vais pas dire une paix sociale, mais un cadre de vie qui est aussi important.
L'autre surprise, c'est donc l'arrivée dans le groupe du défenseur de Séville, Jules Koundé, qui était avec les Espoirs en mars. Pour le reste, c'est du classique. La liste complète sur notre site europe1.fr et rendez-vous à 6h10. Vous entendrez la réaction du Lyonnais Léo Dubois.
Toujours en foot ce soir, c'est la finale de la Coupe de France.
Le Paris Saint-Germain affronte Monaco au Stade de France à 21h15. Déjà assuré de jouer l'Europe la saison prochaine, les Monégasques peuvent s'offrir un joli bonus, d'autant que c'est la seule équipe à avoir battu 2 fois cette saison le PSG en championnat. L'attaquant Wissam Ben Yedder, sélectionné lui aussi pour l'Euro, nous donne le plan de match de l'ASM pour battre cette équipe parisienne.
La clé, ce serait de tout y mettre. On a très envie de gagner cette finale pour le club, d'être unis, d'avoir de l'ambition, d'être solidaire et de rester fort collectivement pour pouvoir gagner.
Wissam Ben Yedder au micro de Julien Froment. En bref, après une journée de repos hier, le Giro reprend la route. Aujourd'hui, 11e étape entre Pérouse et Montalcino. Le maillot de leader est sur les épaules d'Egan Bernal. Le premier français Romain Bardet est à 1 minute 21. Et puis en natation, la française Marie Vatel a été sacrée championne d'Europe du 100 mètres papillon hier à Budapest. Valeur montante de la natation française, elle a terminé ex aequo avec la grecque Anna Entoun-Tounaki.
On termine, Cédric Chasseur, avec du tennis et un retour perdant pour Roger Federer à Genève.
Le Suisse s'incline d'entrée en 3-7 face à l'Espagnol Pablo Andújar pour ce qui sera donc son seul match de préparation sur terre avant Roland-Garros. Mais Roger Federer n'est pas inquiet.
En fait, lui, il était très stable et moi, j'étais up and down un peu. Voilà. Alors, peut-être pour finir, si tu dois analyser le comeback comme ça, c'est presque normal que moi, j'ai passé par là. Voilà. Et c'est là, il me manque des matchs encore. Alors, il faut accepter. Et comme tu dis, après, tu passes à autre chose. Mais ouais, c'est dommage, quoi.
Roger Federer au micro de Corinne Boulou à 6h10. Je vous parlerai d'un retour gagnant cette fois, celui de Gaël Monfils à Lyon.
À tout à l'heure, Cédric Chasseur. À 5h13, place aux courses. À présent, bonjour Thierry Léger.
Bonjour Théo, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Caen. Et mon pari gagnant sera le 616 Inouï d'Annika. Dans ce premier classique de l'année, réservé à la jeune génération des chevaux âgés de 3 ans au trot monté, il fait figure d'épouvantail. Entraîné par Philippe Allaire, vainqueur de ce groupe 1 à 3 reprises lors des 10 dernières éditions, il n'a pas raté ses débuts dans cette spécialité le 16 avril à Vincennes, en s'imposant comme un poulain promis à un très bel avenir, et ce, au plus haut niveau. Alors notez bien, pour cet après-midi à Caen, réunion 1 dans la 6e course, le numéro 16, Inouï d'Annika.
Le pari gagnant signé Thierry Léger. Merci Thierry, on vous retrouve dans 20 minutes pour les pronostics du Quintet.
Europe 1.
À 5h14, dans un instant, on ouvre notre pressing, les histoires repérées pour vous dans la presse. Ombline Roche, qu'est-ce qui vous a marqué ce matin?
C'est compliqué d'être policier, mais c'est encore plus compliqué d'être femme de flic, des conjoints, des enfants de policiers, de gendarmes, et qui vivent dans la crainte permanente. Ils racontent leur quotidien ce matin.
Avant la manifestation, tout à l'heure, à 13h. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Théo Manval.
L'essentiel à 5h15, un déjeuner, un café en terrasse, une séance de shopping, un film sur grand écran. Réouverture aujourd'hui des bars, des restaurants, des magasins, des salles de spectacle et des cinémas. Le couvre-feu est décalé à 21h. 13h cet après-midi devant l'Assemblée nationale, rassemblement à l'appel des syndicats de policiers. 2 semaines après le meurtre d'Éric Masson à Avignon, il demande des peines minimales pour ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre. Une résolution de cessez-le-feu déposée par la France à l'ONU. Après discussion avec l'Égypte et la Jordanie, Paris demande la fin des tirs au Proche-Orient. Les violences qui ont commencé la semaine dernière ont fait au moins 230 victimes au total. Et puis il s'est dit fier hier soir sur Twitter de son retour en bleu. Karim Benzema va retrouver l'équipe de France pour l'Euro de foot le mois prochain. L'attaquant du Real Madrid n'avait plus été convoqué depuis 2015 et sa mise en examen dans l'affaire du chantage à la sextape.
Europe 1.
Allez, c'est parti pour notre pressing du jour avec Omblin Roche et Martin Lange. Et on commence comme chaque matin par la une de vos journaux. Et un mot qui s'affiche partout, ou presque, liberté, soif de liberté pour 20 minutes, le goût de la liberté pour la montagne, un parfum de liberté dans le Berry républicain, un air de liberté enfin retrouvé, titre Ouest France. Et vous, vous faites quoi aujourd'hui? Demande la Croix, on est à deux doigts de l'injonction à aller boire une bière en terrasse. Ceux qui n'ont rien de prévu ce soir sont à ça de culpabiliser. Après la pluie viendra le beau temps, espère en tout cas le Figaro, parce que c'est vrai que cette réouverture ne va pas se faire sous les meilleurs auspices météorologiques. Une colère bleue aussi à la une de Libération. Des milliers de policiers attendus devant l'Assemblée nationale cet après-midi, rappelle la Voix du Nord, pour demander, on en parlait à l'instant, une meilleure protection face aux agresseurs et appeler au soutien populaire, conclut le Dauphiné libéré. À Marseille, c'est l'hospitalisation en urgence de Jean-Claude Gaudin qui fait la première page de La Provence. L'ancien maire de la cité phocéenne, 81 ans, a été pris de violentes douleurs au ventre et au dos. Il a été opéré la semaine dernière et a pu rentrer chez lui, nous apprend le quotidien. La politique toujours, mais pour mieux comprendre le vrai enjeu des régionales pour lequel nous voterons dans un peu plus d'un mois. À quoi sert la région? Deux pages complètes sur les attributions des conseils régionaux à lire dans La Nouvelle République en Centre-Val de Loire. Et puis en football, bien sûr, Deschamps déconfine. Benzema s'amuse aujourd'hui en France. Enfin, s'écrit le quotidien lyonnais Le Progrès, un petit peu chauvin. C'est la surprise du chef, titre l'équipe qui n'oublie pas la Coupe de France ce soir et la finale de gala PSG-Monaco. 5h18, les trois histoires qui ont attiré notre attention ce matin. Et Omblin Roche, on commence donc avec vous et avec ces fans de flics.
Oui, elles sont dans l'ombre de ceux qui manifestent leur colère aujourd'hui. Celles qui se rongent les sangs à la maison, elles s'appellent Caroline, Perrine, Claire, Aude. Elles sont femmes de policiers ou de gendarmes. Le quotidien La Croix oriente le projecteur ce matin sur ses conjoints qui doivent s'adapter au rythme décalé, au travail de nuit et qui vivent aussi et surtout avec les peurs et les menaces inhérentes au métier. Dans certaines familles, on raconte ce qui se passe sur le terrain à condition que la personne en face soit suffisamment solide pour l'écouter. Pour d'autres, eh bien, l'uniforme reste sur le pas de la porte et le boulot de flic ne contamine pas la sphère familiale. Alors, c'est la politique de la maison chez Caroline, par exemple. Son mari policier ne lui fait pas le compte-rendu de ses journées. Mais ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas que ce n'est pas pesant. Policier municipal, il change chaque jour de chemin pour se rendre au commissariat qui se trouve dans la commune voisine. Mmh. En ville, le couple évite d'être vu ensemble et il possède un chien de garde, un berger malinois toujours en alerte. Ces femmes de flics ressassent ce qu'elles voient à la télé et chaque jour, elles se demandent est-ce qu'il rentrera en un seul morceau. Certaines craignent le geste malheureux. Elles vivent aussi avec la peur du suicide, surtout qu'il n'existe aucun accompagnement pour surmonter les drames, selon l'une d'elles qui travaille dans la gestion du traumatisme des forces de l'ordre par l'hypnose. Et elle ajoute, aller voir le psy, c'est être considéré comme fragile. Mais au-delà de tout ça, sans imaginer toujours le pire, ces femmes de policiers et de gendarmes ont conscience de la crise de confiance entre la police et une partie de la population. Alors elles restent prudentes, elles tâtent le terrain, elles regardent l'audience lorsqu'il s'agit simplement de parler du métier de leur mari. Conjoint, enfants, parents de forces de l'ordre, il raconte, c'est dans le quotidien La Croix.
Merci Omblin Roche. PNC aux portes, armement des toboggans.
Ah, on connaît ça.
Et des friteuses. Air France fait voler son premier avion à l'huile de cuisson. Je vous le promets que c'est vrai, c'est ce que nous apprend un article d'aujourd'hui en France ce matin. Une goutte d'huile de cuisson dans un océan de kérosène met l'espoir d'une aviation moins polluante, écrit le journal. Ce vol Paris-Montréal a décollé hier après-midi, 15h40, de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Premier long courrier durable pour la compagnie Air France, avec 16% du plein réalisé en biocarburant. C'est Total qui fournit ce biocarburant, produit dans deux raffineries, des graisses animales issues de l'économie circulaire et donc de l'huile de cuisson usagée venue de cantine ou de la restauration rapide. Vous y penserez la prochaine fois que vous commanderez une grande frite. Aujourd'hui, Total se dit capable d'en produire 20 000 tonnes par an de ce biocarburant, soit assez pour couvrir l'objectif de 1% du plein des avions qu'a fixé le gouvernement. Ça doit passer à 2% en 2025 et 5% en 2030. Il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit au moteur des avions. C'est le côté pratique qui fait du biocarburant une solution intéressante en complément des autres en développement pour une aviation verte, les moteurs électriques, les moteurs à hydrogène. Mais ce biocarburant coûte plus cher à produire que le kérosène. Il va donc faire augmenter le prix des billets à l'avenir. 5 euros de plus pour un Paris-Montréal comme celui-ci, ça reste raisonnable. Surtout quand on regarde ce que ça permet. 16% de biocarburant dans les réservoirs, c'est 15% de CO2 émis en moins sur le vol. Alors pourquoi ne pas passer au tout biocarburant, me direz-vous ? Parce que ce n'est pas autorisé encore pour raison de sûreté. Il doit encore être mélangé à au moins 50% avec du kérosène. Donc il ne faut pas rêver. L'avion totalement sans énergie fossile, ce n'est pas pour demain, sinon ça s'appelle un planeur. Mais c'est déjà un premier pas. L'avion qui vole à l'huile de cuisson, c'est au menu dans Le Parisien aujourd'hui en France. On termine avec vous, Martin Lange.
Oui, avec des cheveux de Kurt Cobain, l'ancien chanteur de Nirvana, vendu aux enchères pour 14 000 $.
Quand même.
Oui, vous avez bien entendu, hein, 14 000 $, près de 12 000 € pour 6 mèches de cheveux. Alors d'où viennent ces mèches ? Eh bien, elles ont été coupées par une amie du guitariste en 1989 lors d'une tournée de Nirvana pour l'album Bleach. Alors, pour authentifier leur provenance...
Oui, hein, parce qu'à 12 000 €, il faut être sûr quand même.
Ouais. Exactement. Alors, pour être sûr, justement, comme vous dites, Théo, elle a même gardé une photo où on la voit ciseaux à la main, prête à ratiboiser la star. Ces mèches, hein, dont la plus grande fait précisément 6 cm, ont ensuite appartenu à plusieurs personnes. Une artiste de Seattle, puis un collectionneur. C'est lui qui les a mises en vente en début de semaine. Mise de départ, 2 500 $. Mais c'était sans compter sur l'engouement autour de Kurt Cobain, hein, puisque les prix se sont rapidement envolés.
Ce qu'on découvre avec vous, Martin, donc, ce matin, c'est qu'il y a un véritable marché du cheveux de star.
Exactement, Théo. Hein, l'homme qui a vendu les mèches de Kurt Cobain, un certain John Reznikoff, est d'ailleurs le plus grand collectionneur du monde.
Tiens donc.
Il possède des cheveux d'Abraham Lincoln, de John Kennedy, de Marilyn Monroe et même de Michael Jackson. Hein, sacrée collection, même si tout le monde ne mettrait pas ça dans son salon. Et figurez-vous que les 14 000 $ dépensés pour les mèches de Kurt Cobain sont loin d'être un record. Hein. En 2011, les cheveux de Justin Bieber ont été vendus 40 000 $. Quant à ceux de David Bowie, un fan en a acheté un échantillon pour 18 000 $ juste après sa mort. Voilà, c'est peut-être ça l'amour moderne.
Modern love.
6 mèches de cheveux de Kurt Cobain vendues 14 000 $. C'est à lire sur le site du Huffington Post.
J'espère que vous avez gardé les vôtres en début de semaine. Ça peut valoir cher dans quelques années. Merci Martin, merci Omblin. Je vous dis à tout à l'heure.
Théo Manval vous informe sur Europe 1.
Allez, 5h23, nous sommes en bord de mer ce matin pour les doigts dans l'assiette auprès de notre ostréiculteur Renan Henry. Bonjour Renan.
Bonjour.
Installé dans le Morbihan, en baie du Mont-Saint-Michel aussi et dans la rade de Brest, vous êtes où précisément ce matin ?
À Saint-Philibert, la Trinité-sur-Mer, en baie de Quiberon.
Et alors la météo s'annonce propice à la réouverture des terrasses et des restaurants chez vous dans l'Ouest ?
Voilà, pour l'instant oui, le ciel est bien étoilé en partie, donc on espère que les restaurants vont faire le plein parce que ben, ça fait trop longtemps qu'ils sont fermés. Nous, ça nous fait perdre 40% de notre chiffre d'affaires et autant être honnête, hein, on n'aurait pas tenu un mois de plus sans la réouverture des restaurants.
Oui, c'est une nouvelle très importante aussi pour les producteurs, hein, comme vous, ce déconfinement. Vous le disiez, 40% de votre production part dans les bars et les restaurants.
Oui, dans les restaurants, évidemment, essentiellement. Et bon, ben, les terrasses, c'est une première amorce. On sent depuis deux jours un frémissement dans les commandes, donc on apprécie et on a hâte que les restaurants en intérieur puissent ouvrir au mois de juin. Quoi.
Vous avez retrouvé vos clients restaurateurs habituels ?
Oui, alors pas tout à fait encore, parce qu'on n'a pas beaucoup non plus de restaurants avec terrasse. Mais c'est déjà un premier début. Et puis, nous aussi, ostréiculteurs, nous effectuons de la dégustation. Hein. On a beaucoup de monde à venir manger des fruits de mer dans nos établissements.
Bien sûr. Vous avez déjà des réservations pour ce soir, pour les jours qui viennent ?
Non, pas encore. Hein, mais parce que moi, personnellement, je n'ouvre pas tout de suite encore, parce que je n'ai qu'une petite terrasse. Mais on se prépare.
À combien on pourra venir chez vous lorsque vous aurez rouvert à la Trinité-sur-Mer?
J'ai de la place pour 200 personnes, mais la préfecture n'autorise pas plus de 50. C'est un peu dommage, même en hors Covid.
Bon, faites-nous rêver un petit peu. En tout cas, vous faites plusieurs variétés d'huîtres sur vos exploitations. Qu'est-ce que vous nous conseillez pour ceux qui auront la chance d'aller se faire quelques bourriches ce soir?
Ah ben, donc il y a la traditionnelle huître creuse, hein, la plus connue, la plus répandue en France, et nous produisons aussi l'huître plate, la fameuse Belon.
et puis toutes sortes de coquillages et de crustacés, langoustines, crevettes, homards, tourteaux, araignées, et puis en coquillages, ben, les praires, les palourdes, les bulots, les clams, les bigorneaux, les coques, les télines, les voilà.
Il y a
largement le choix pour se faire vraiment plaisir. Et on fait aussi énormément de plateaux. Alors, plateaux de fruits de mer, ce qui est assez bizarre, c'est qu'on a énormément de réservations de plateaux de fruits de mer à emporter.
Ouais.
Comme si cette ouverture des terrasses libère aussi les gens à manger chez eux, à recevoir.
D'accord. Bon, c'est vrai que c'est l'alternative, puisqu'il n'y a que 50% de jauge sur les terrasses. Merci beaucoup, en tout cas, vous nous avez fait saliver, Renan Henry. On espère que vous pourrez rouvrir très vite et que vous retrouverez les visiteurs et puis les commandes des restaurants. Bonne reprise, à bientôt dans Les Doigts dans l'Assiette.
Merci, à bientôt, au revoir.
Sous les lueurs poignardes du crépuscule sur le parking, on m'a forcé à boire. Et j'ai le pull taché de jean, de grande lampée, de myrtille, vodka, avalé à la fiole. C'était juste avant que la nuit ne pâlisse et s'étiole. On pousse encore un peu le volume, les gens se bousculent dans le noir. Les ambiances de pogo, de brume, de baisers et de verre au comptoir. J'ai tout tenté pour que tu me vois, j'ai même dansé juste pour toi. J'ai balayé ce qu'on moi, juste pour te plaire, juste pour te plaire. On s'est trouvé dans la pénombre, puis j'ai perdu ta trace. Les silhouettes qu'on peut confondre, au bout d'un visage, une impasse. Tu m'as souri, puis t'es parti. Depuis je compte les jours, les heures. J'ai tout tenté pour que tu me vois. J'ai même dansé juste pour toi. J'ai balayé ce qu'on pense de moi. Juste pour te plaire, j'ai tout tenté pour que tu me vois. J'ai même dansé juste pour toi. J'ai balayé ce qu'on pense de moi. Dans le décor, le moindre détail qui puisse refaire l'histoire et calfeutrer la faille. On s'est loupé la veille, mais je garde en mémoire des boucles d'oreilles et ton caraco noir.
Juste pour te plaire, la nouveauté Timothée Dupéret sur Europe 1, 5h29. À Laurent Cabrol, à quoi va ressembler cette journée ?
Bien, ce premier jour de déconfinement des terrasses, si je puis dire, nous allons vivre une journée malheureusement encore très agitée avec des averses, des orages et ce, dans le courant de la journée. Alors, les meilleures chances d'éclaircie pour le sud-ouest, pour l'Auvergne, la région Rhône-Alpes, les régions de l'Est, oui, ce sera pas trop mal, mais enfin, il ne faut pas rêver. Et puis, pas mal d'orages quand même, hein, aujourd'hui sur le nord, sur la Champagne-Ardenne, sur l'île de France, si il y en aura, sur la Bourgogne, la Franche-Comté et le Massif central. Entre deux orages, vous me direz, il y a des éclaircies, bien sûr, mais il faudra vite en profiter. Bref, les seules région vraiment il fera beau, c'est le bassin méditerranéen. Là, le temps sera calme, ensoleillé, enfin calme, 70 km/h le vent quand même, hein, mais côté ciel, très calme et ensoleillé, pratiquement toute la journée. Les températures maximales entre 14 et 18 degrés, c'est encore bien frais, 14 à Caen, 15 degrés à Orléans, Cherbourg, Reims et Lille, 15 degrés aussi à Paris, pas plus, hein, 16 degrés à La Roche-sur-Yon, 17 à Gap et 18 à Toulouse pour les températures les plus élevées, 23 à Marseille.
Merci Laurent, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7. Théo Manval.
Merci de vous réveiller avec nous tout de suite. Un nouveau journal. Bonjour Émilie Dez.
Bonjour Théo, bonjour à tous.
Europe 1, 5h30.
Attaquant, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Karim Benzema.
L'attaquant du Real fait son retour en bleu. Il est dans la liste des 26 joueurs retenus par Didier Deschamps pour disputer l'Euro. C'est le jour J. Les cinémas, les théâtres, les commerces non essentiels et les terrasses rouvrent aujourd'hui. Le couvre-feu est décalé à 21h. Et puis mobilisation aujourd'hui des policiers pour réclamer plus de sévérité pour les agresseurs des forces de l'ordre. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sera présent.
Dans 10 minutes, on rejoint un restaurateur en plein préparatif pour la réouverture. Le patron de la branche Café-Restaurant du syndicat GNI. midi. Marcel Bénezet nous attend à son comptoir. Et puis la France bouge. Vos belles initiatives nous emmèneront dans le Finistère ce matin. Bon réveil.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'était la surprise du chef. Karim Benzema fait partie des 26 joueurs retenus par Didier Deschamps pour l'Euro de football qui débutera le 11 juin prochain. Tellement fier de ce retour en équipe de France et de la confiance que l'on m'accorde, a tweeté l'attaquant du Real Madrid. 5 ans et demi après sa dernière apparition, Karim Benzema fait donc son grand retour avec les Bleus. Et Cyril de la Morinerie, Didier Deschamps, qui ne voulait plus l'avoir dans son équipe, a donc changé d'avis.
Oui, avant Didier Deschamps se crispait et bottait en touche lorsqu'on lui posait une question sur Karim Benzema. Mais hier soir, c'était tout l'inverse. Le sélectionneur était souriant et heureux d'évoquer le retour de l'attaquant du Real Madrid, vantant ses qualités de footballeur et sa saison de rêve. C'est lors d'une rencontre longtemps tenue secrète que les deux hommes ont enfin pu échanger, révèle Didier Deschamps.
Il y a une étape importante, c'est le fait qu'on puisse se voir et discuter ensemble. Discussion qui a eu lieu, je ne vais pas vous donner l'heure, le lieu et la date, mais il y a un petit moment quand même. Ça s'est passé là, ça se passe aujourd'hui, on ne peut pas faire machine arrière, voilà.
D'ailleurs, la nouvelle est plutôt bien perçue par les joueurs français. Léo Dubois, joint par Europe 1, est enthousiaste.
C'est un joueur avec une qualité énorme et le fait de pouvoir retrouver ce style de joueur pour aller sur une grosse compétition comme celle qui nous attend, ça peut être que bénéfique pour nous.
En revanche, il n'est pas certain qu'Olivier Giroud, même s'il n'est pas rancunier, soit aussi enthousiaste. Karim Benzema l'avait comparé à un karting. « Moi, je suis la F1 », avait affirmé l'attaquant du Real Madrid.
Et en attendant l'Euro, place à la Coupe de France. Ce soir, le PSG et Monaco s'affrontent en finale à 21h15. Soirée spéciale dès 20h ce soir sur Europe 1.
Couvre-feu repoussé à 21h. Réouverture des lieux culturels, des commerces non essentiels et des terrasses. Cette fois-ci, on y est.
Oui, c'est l'heure des premières libertés retrouvées. Tout le monde est dans les starting blocks à quelques heures du lever de rideau, notamment les 1500 plages privées de France. Il y en a pas moins de 400 sur la Côte d'Azur. Le reportage à Nice de notre correspondant Frédéric Michel.
Face à la Méditerranée, des rangées de transats et des matelas qui n'attendent désormais que les clients. À la Baïetta, le bisou en histoire, Alexandre Sousse et son équipe croulent sous les réservations.
8 mois de fermeture, mais ça y est, on ouvre aujourd'hui, on a hâte de retrouver notre clientèle. Tout a été mesuré, 1m50 entre chaque table, pareil pour les transats et déjà complet surtout.
Les 14 établissements de plage situés à Nice ouvriront tous entre aujourd'hui et samedi sur sa terrasse du Blue Beach. Le président des plagistes niçois, René Colomban, a retrouvé le sourire.
C'est vrai qu'on est tous la tête dans le guidon pour finir, vous voyez, vous entendez la scie. C'est sûr, là, il y a une attente très très forte, les clients, ils ont qu'une envie, c'est de se faire servir, d'être un petit peu au soleil, de profiter de la vie tout simplement. Et tous les garçons qui sont au chômage depuis 6 mois et demi, n'en rêvent que d'une chose, c'est de retravailler, parce que là franchement ça commence à faire très très long.
Sur la promenade des Anglais, hier, certains passants regardaient les préparatifs, l'eau à la bouche.
Je sais pas laquelle choisir, parce que je les connais tous.
Alors un jour chez l'un, un chez l'autre, je vais avoir du travail.
On est très contents, mais on viendra pas parce qu'il y aura trop de monde. La distanciation ne sera pas respectée. Il va y avoir un monde fou, mais c'est super bien.
Et l'autre bonne nouvelle, c'est que dans le sud, ce retour en terrasse se fera sous le soleil.
Frédéric Michel pour Europe 1.
Allez, chanceux, la Côte d'Azur. Et si la plupart des restaurateurs et des cafetiers, je vais y arriver, se sont activés toute la journée d'hier pour ressortir les tables et les chaises, certains ont choisi de laisser leurs rideaux baisser.
Ouais, ils craignent qu'une réouverture avec une jauge réduite à 50% ne soit pas rentable. En plus, si le soleil, on l'a entendu, sera au rendez-vous à Nice, ce sera loin d'être le cas partout aujourd'hui. Alors, pour favoriser au maximum la reprise et les réouvertures, le ministère de l'Économie va maintenir les aides pour compenser les pertes éventuelle, Carole Ferry.
Alors déjà pour ce mois-ci, pas de changement. Un restaurant qui décide d'ouvrir sa terrasse aujourd'hui mais termine le mois avec un chiffre d'affaires en baisse d'au moins 50% par rapport à avant la crise, aura le droit exactement aux mêmes aides qu'aujourd'hui, 10 000 euros ou 20% de son chiffre d'affaires de 2019. À partir de juin, on rebat les cartes, nouveau dispositif. Il pourrait y avoir des aides dès 10% de perte du chiffre d'affaires, mais elles seront moins importantes et vont progressivement diminuer d'ici la fin de l'été. En juin, le Fonds de solidarité prendra en charge 40% de la perte du chiffre d'affaires, 30% en juillet et 20% seulement en août. Si tout va bien, le versement des aides devrait totalement s'interrompre au mois de septembre. Mais le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, l'a promis à plusieurs reprises. Il y aura une clause de revoyure avant la rentrée et le dispositif pourrait être poursuivi si nécessaire.
Carole Ferry.
Du côté politique, le Sénat a voté cette nuit le projet de loi qui accompagne le déconfinement.
À 221 voix pour et 102 contre, le texte sur la sortie progressive de l'état d'urgence a pour autant été largement remanié par les sénateurs qui ont posé leurs conditions. Jean-Rémy Baudeau avec Alexis de la Fontaine.
Notre objectif commun, c'est de sortir une bonne fois pour toutes de cette crise sanitaire.
Devant les sénateurs, Olivier Véran se dit d'un optimisme raisonnable, mais le ministre de la Santé n'est pas parvenu à infléchir le projet des sénateurs. Le LR Philippe Bas a notamment dénoncé un texte en trompe-l'œil.
Le gouvernement invente ce régime inutile de sortie de l'état d'urgence sanitaire qui ne comporte que des mesures déjà prévues par l'état d'urgence sanitaire.
Malgré l'hostilité de nombreux élus, le Sénat a finalement adopté un régime intermédiaire jusqu'au 15 septembre. 15 jours de moins que l'Assemblée nationale. Mais la Chambre, dominée par l'opposition de droite, a globalement donné son feu vert au pass sanitaire en limitant ce pass aux seuls lieux qui ne permettent pas le respect des gestes barrières. Là encore, la droite s'est inquiétée du recul des libertés. Valérie Boyer.
Ça fait quand même le 8e texte. On a été privé de liberté. Je pense qu'on franchit un pas important en termes de privation de liberté.
Du côté du gouvernement, on espère un compromis rapidement entre Sénat et Assemblée. Le vote de ce texte est nécessaire pour organiser concrètement les prochaines étapes du déconfinement.
Les députés et sénateurs tenteront demain de se mettre d'accord sur un texte commun. En cas d'échec, c'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot.
Il est 5h37, deux semaines après l'assassinat d'Éric Masson à Avignon. Les policiers se mobilisent cet après-midi devant l'Assemblée nationale.
De nombreux élus seront présents, tout comme le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, Grégory Joron, le secrétaire général délégué du syndicat Unité SGP Police FO. Le syndicat, à l'initiative de ce rassemblement, souhaite que la manifestation soit aussi l'occasion de porter une revendication, celle d'instaurer des peines minimales pour les agresseurs de policiers.
Malheureusement, la plupart du temps, on est souvent sur des peines qui sont en dessous d'un an de prison, qui du coup vont être transformées en peines alternatives. On a des exemples assez précis où finalement, quand quelqu'un est jugé pour avoir agressé un fonctionnaire de police, lui avoir infligé 21 jours d'incapacité totale de travail, ce qui est énorme, il prend 6 mois de prison ferme, mais sans mandat de dépôt. Donc en fait, c'est quelqu'un qui ne va pas en prison, pas une seule minute. Aujourd'hui, ça nous pose un réel problème de message envoyé à ces agresseurs et aux policiers. On espère surtout que cette manifestation soit vraiment une réussite, forcément qu'on ait du nombre, pour porter cette revendication de peine minimale. Parce que là, je pense qu'on est au-delà de toute sensibilité politique. On parle surtout d'un constat de société et de ce qu'on veut pour demain.
Grégory Joron au micro Europe 1 de Gladys Laffitte.
Encore un adolescent, un jeune homme de 17 ans, tué par arme blanche. Hier soir, ça s'est passé à Champigny-sur-Marne.
Les circonstances du drame restent à établir. 3 personnes ont été interpellées, dont un mineur. Le principal suspect, né en 2005, vivait dans la même résidence que la victime. Les enquêteurs penchent pour un règlement.
À l'étranger, la France a déposé hier soir une résolution devant l'ONU pour demander un cessez-le-feu au Proche-Orient.
Une résolution déposée en coordination avec l'Égypte et la Jordanie alors que le Conseil de sécurité de l'ONU est bloqué depuis 8 jours par les États-Unis sur l'adoption d'une simple déclaration sur le conflit qui oppose Israël au Hamas. Les bombardements israéliens et les tirs de roquettes du Hamas ont fait de nouveaux morts. Hier, au moins 230 personnes ont été tuées depuis le 10 mai dernier.
Enfin, à 6 mois de la COP26, l'Agence internationale de l'énergie publie un rapport qui va faire du bruit.
L'autorité, très respectée par les gouvernements et l'industrie, vient de livrer sa feuille de route pour parvenir à zéro émission nette de CO2 d'ici 2050. Et le message est très clair, Virginie Salmen, fini de creuser de nouveaux forages pétroliers ou gaziers.
Oui, le pétrole et le gaz appartiennent au passé. C'est la première fois que l'Agence internationale de l'énergie est aussi catégorique. Il n'y a plus lieu de creuser de nouveaux forages pour extraire du pétrole. Idem pour le gaz, puisque 90% de la production d'énergie devra être renouvelable d'ici 2050. Comment ? Ça passe par l'électrification des voitures, la multiplication par 8 de la production d'énergie solaire et éolienne, et puis le recours à l'hydrogène et au stockage de carbone. Et tout ça aura un effet positif sur l'emploi, selon les projections de l'Agence internationale de l'énergie, décryptées par Lola Valéjo, directrice du programme climat de l'IDRI.
Cette transition qui est majeure va avoir un effet net positif en termes d'emploi, c'est-à-dire qu'on va avoir plus de création que de destruction, même s'il reconnaît qu'il va y avoir une transition et un besoin d'accompagnement très fort de la part des gouvernements.
Autre mesure essentielle défendue par les experts de l'AIE, ne plus vendre de voitures, essence ou diesel, neuves, nulle part dans le monde d'ici 2035.
Virginie Salmen pour Europe 1.
Dans le journal d'Émilie Dez. Merci Émilie, il est 5h40. À l'heure de retrouver Thierry Léger pour le Quintet.
Direction l'hippodrome de Caen pour un magnifique quintet, le prix des Ducs de Normandie, qui réunira quelques-uns de nos meilleurs trotteurs. Et parmi les 13 partants, je n'ai pas hésité à placer en tête de mon pronostic Davidson Dupont, le numéro 13, qui vient de renouer avec la victoire le 9 mai à Vincennes, effaçant ainsi toute une série de contre-performances. Second du dernier prix d'Amérique, il fait figure ici de solide favori. Il devra toutefois se méfier de son compagnon d'entraînement, Dorgos de Guèze, le numéro 11, à ne surtout pas condamner sur son dernier échec, mais aussi étonnant le numéro 10, vainqueur du Grand Prix de Paris et dont la dernière tentative dans le critérium de vitesse à Argentan est, croyez-moi, bien meilleure que l'indique son classement. Ensuite, méfiez-vous des numéros 12, Bugsy Malone, 5e de cette même épreuve l'an dernier, après avoir été 3e en 2019, 6, Sébé le Romain, qui reste sur 3 victoires consécutives, et 8, Chica de Joude, sur le bon chemin après un hiver en demi-teinte. Enfin, les numéros 3, Elvis du Vallon, et 9, Valokaja Indo, compléteront ma sélection. Mon pronostic, 13, 11, 10, 12, 6, 8, 3, et 9.
Merci Thierry Léger, on retrouve tous vos pronostics sur europe1.fr.
Théo Manval sur Europe 1.
Et en ce jour de nouvelle étape du déconfinement, on rejoint tout naturellement un restaurateur ce matin. Notre premier invité est à pied d'œuvre. Bonjour Marcel Bénézet.
Bonjour.
Président de la branche Café Bar Brasserie du Groupement National des Indépendants. Vous gérez vous-même deux établissements. Je m'adresse aux restaurateurs d'abord ce matin. Quel sentiment vous anime là à 20 minutes, de même pas 18 minutes de la fin du couvre-feu?
Voilà enfin le top départ pour ouvrir nos établissements. Bien sûr, nous aurons trois phases d'ouverture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous allons pouvoir servir en terrasse. Alors c'est déjà une bonne chose parce que ça va nous remettre un peu de morale après 7 mois de fermeture et d'inactivité au point mort. Donc aujourd'hui, sauf quelques-uns qui ont fait de la vente à emporter, moi le premier d'ailleurs dans un établissement, une de mes gérantes a fait la vente à emporter, mais ça ne suffit pas à tenir financièrement. Donc aujourd'hui, nous allons réouvrir nos établissements en terrasse et vous pensez qu'on en est ravis. Malheureusement, la météo n'est pas favorable sur le plan national et surtout de la région parisienne. Dans le midi, dans le sud, où j'ai encore un associé, un gérant dans une entreprise dans le sud, où là, il fait beau. Il va pouvoir sortir sa terrasse.
Mais pour votre restaurant près de la gare de l'Est à Paris, ça va être un petit peu plus compliqué. Vous êtes quand même prêt? Tout est prêt pour la terrasse?
Ah ben ce matin on va sortir, c'est-à-dire que nous appliquons la règle. On la démonte le soir et on la remonte le matin à 6h30 du matin.
D'accord, donc dans 3 quarts d'heure vous la remontez. Combien de personnes vont pouvoir s'attabler sur votre terrasse?
On va pouvoir mettre une vingtaine de couverts. Nous ouvrons quand même ce soir. On sait qu'on va travailler à perte parce que ça a mobilisé beaucoup de personnel. Quand je vois hier la mise en place de tout ça, ça a demandé beaucoup d'énergie pour les salariés de l'entreprise. Ma gérante était à pied d'œuvre et je peux vous assurer que j'espère qu'on va travailler, mais bon, la météo est pas favorable, bien sûr. Oui.
Justement, vous dites on va travailler à perte et la météo n'est pas favorable. Le protocole sanitaire reste strict, jauge à 50%, obligation de rester assis. À quelle proportion vous estimez, Marcel Bénézet, ceux qui ne vont pas rouvrir aujourd'hui, qui choisissent de ne pas rouvrir parce que ce n'est pas rentable?
Alors, il y a déjà ceux qui n'ont pas de terrasse, qui peuvent pas rouvrir, bien sûr, qui représentent quand même 50% sur le plan national, je parle. On est entre qui n'ont pas de terrasse, c'est la moitié à peu près qui ont des terrasses. Sur Paris, vous avez 40% de gens qui n'ont pas de terrasse aussi. Et vous avez surtout certains qui ne vont pas réouvrir parce que ils ont une toute petite terrasse et que ça représente un chiffre d'affaires vraiment qui est vraiment pin-up. C'est vraiment à peine quelques dizaines d'euros, des
milliers
d'euros.
Mais autour de vous, il y a beaucoup de gens qui choisissent d'attendre plutôt le mois de juin et la réouverture des salles?
Alors j'en ai quelques-uns qui m'ont appelé, qui m'ont dit finalement, vu la météo, s'il avait fait beau, je pense qu'ils auraient tenté l'expérience, rien que moralement. Mais vu la météo, beaucoup ont décidé de réouvrir que le 9.
Il y a la météo et puis il y a le protocole aussi qui paraît clair quand on dit ça comme ça. 50% de fréquentation maximum, tout le monde à table, assis, 6 personnes maximum. On porte le masque jusqu'à ce que la commande arrive. Pourtant, on a entendu aussi des restaurateurs dire que ce protocole, il n'était pas assez clair. Est-ce qu'il y a des choses qui restent floues pour vous?
Non, il est clair. Il suffit de bien le lire. Il est clair. Il est contraignant. Ça, c'est certain. Mais clair, il est. Pour être clair, il est. Le problème, il est contraignant. Vous devez recevoir les clients avec le masque. Ils doivent s'asseoir et garder le masque. Ils commencent à l'enlever que lorsque le premier plat est arrivé. Entre chaque plat, ils doivent le remettre. Puis personne doit rester debout. Ils doivent se lever pour aller aux toilettes et encore quand on prend le protocole.
On peut aller aux toilettes à l'intérieur.
Voilà, et encore à la limite, si on prend ce qu'a dit le Premier ministre, on peut pas même rentrer à l'intérieur les clients. On peut pas. Un établissement, un restaurant doit donner des toilettes pour se laver les mains déjà, parce qu'on va se mettre à table et puis pour aller aux toilettes faire ses besoins, c'est normal.
On a vu par exemple en Angleterre les Britanniques pouvoir s'attabler en terrasse et commander de l'alcool à emporter, par exemple, s'ils n'arrivaient pas à trouver de place. On n'aura pas le droit, qu'on soit clair, de faire ça en France aujourd'hui.
Alors, Aujourd'hui, la consommation d'alcool sur la voie publique est interdite. On pourra le faire qu'à condition d'être assis et emporter, bien sûr, s'ils n'ont pas terminé leur bouteille de vin. Ça, c'est dans, ils pourront pas emporter dans un sac. Bien sûr qu'ils pourront emporter leur bouteille de vin s'ils n'ont pas terminé.
Mais pas de bière dans un gobelet plastique.
Ah non, mais non, je dis en bout emporter le reste de la bouteille. C'est-à-dire, c'est, ils le mettent dans un sac et l'amener chez eux. Mais ils pourront pas la consommer dans la rue, c'est interdit.
Marcel Benezet, une récente étude commandée par les professionnels du secteur faisait aussi redouter un manque de bras. 100 000 employés, commis de cuisine, serveurs, qui ne reviendraient pas après les confinements. Elle se confirme, ces difficultés de retrouver du monde pour vous?
Oui, tout à fait, parce que moi, quand j'interroge quelques adhérents, m'appellent, bon, pas quelques, beaucoup d'adhérents m'appellent. Effectivement, ils ont envoyé des courriers à leurs salariés, et en retour, leurs salariés leur envoyaient une lettre de démission. Parce qu'ils ont trouvé, un job nouveau, quelque chose qui les épanouit davantage, où ils ont moins de risques, comme on a subi, là, des fermetures en cascade. Et on a quand même, depuis presque un an et demi, on vit quelque chose de très difficile pour les salariés. Ouais. Et effectivement, nous avons fait de la formation, parce que nous avons des gestes de la main, si vous voulez. On a quelque chose de manuel. Donc aujourd'hui, on a perdu ces gestes. Il faut reformer le personnel.
Bien sûr.
Non, c'est compliqué. Non, c'est vrai que nous allons connaître une période difficile.
Difficile parce que difficile de retrouver tous ces employés, parce que les journées sont fractionnées, parce que c'est du travail le soir, le week-end. Certains se sont rendus compte aussi, peut-être, que c'était bien, en fait, de pouvoir passer plus de temps en famille. Écoutez ce que dit Olivier Guivarche, représentant CFDT des salariés de la restauration.
La première chose à faire, c'est d'améliorer la rémunération. La deuxième chose à faire, c'est d'agir sur les conditions de travail. Il faut revoir la manière de manager avec des cultures d'entreprise plus adaptées à la société d'aujourd'hui, qui évitent les discriminations, notamment envers les femmes. Les horaires, on ne les changera pas, mais que les conditions de travail soient quand même respectables.
Qu'est-ce qu'il va falloir changer dans le fonctionnement pour attirer à nouveau des salariés, Marcel Benezet?
Mais depuis longtemps, la coupure n'existe plus chez nous. C'est des horaires continus. Il est très très rare qu'il y a des coupures comme on faisait dans le temps. On avait la coupure l'après-midi. Et ça, c'est très. Les chefs d'entreprise ont très bien compris depuis quelques années que de laisser notre personnel de 15h jusqu'à 19h qui reviennent, ils arrivaient des fois, ils avaient fait la tournée des bistrots. Donc, depuis longtemps, on a arrêté les coupures. C'est bien. Aujourd'hui, on a beaucoup amélioré le poste de travail. Il y a beaucoup d'efforts ont été faits dans la profession. Aujourd'hui, on avait le problème de recrutement déjà avant la pandémie. Donc, on va le retrouver en arrivant, bien sûr. Et peut-être accentué parce que beaucoup ont pris d'autres horizons.
Rapidement, un point sur la situation économique, évidemment, qui reste précaire. Est-ce que vous-même, vous allez garder des employés en chômage partiel?
Alors, on va en garder, je pense, c'est pas des grosses entreprises. Dans le midi, on prend que des saisonniers, donc pour l'instant, on attend. Et pour Paris, on a deux personnes en chômage partiel, bien sûr.
Et elles vont y rester pour les mois qui viennent, jusqu'à quand?
Jusqu'au 9. Je pense que le 9, on pourra les remettre au travail.
C'est-à-dire qu'une fois que les terrasses seront à 100% et l'intérieur des salles à 50%, vous pourrez redonner du travail à tout le monde.
Parce qu'il faut quand même attendre le 1er juillet pour reprendre une activité. Si je peux appeler normal. Parce qu'à Paris, on a le problème, c'est que Paris, surtout Paris, c'est la capitale du tourisme et qu'on n'a pas de touristes et qu'au mois de juillet, les Parisiens vont partir, qu'on va se retrouver sinistrés. On demande d'ailleurs un plan spécial Paris, parce que comme Lourdes, comme ça a été fait pour Lourdes, vous avez des villes qui sont sinistrées parce qu'elles vivent du tourisme.
On vous souhaite en tout cas, même malgré la météo qui sera un petit peu grise, une belle reprise aujourd'hui. On ne doute pas qu'il y aura quand même du monde pour aller reboire une bière en terrasse. Une belle fréquentation jusqu'à 21h, qui est la nouvelle heure du couvre-feu. Merci beaucoup Marcel Benezet.
Merci à vous.
Président de la branche Café Bar Brasserie du GNI Sinorca. Merci d'avoir été avec nous ce matin.
Merci. Bonne journée.
6h-10, l'heure de mettre en lumière celles et ceux qui font bouger la France avec vous, Cédric Chasseur. Où est-ce que vous nous emmenez ce matin?
Et direction le Finistère aujourd'hui, je vous emmène à la pêche, aux filets de pêche. Nous allons les recycler grâce à une entreprise du Conquet.
Les Français ont des idées, on vous le montre dans une minute.
Repin. Théo Manval.
L'essentiel à 6h-10, après un peu plus de 200 jours de fermeture, les cinémas, théâtres et musées rouvrent aujourd'hui. Réouverture aussi des commerces non essentiels et des terrasses pour profiter un peu plus longtemps de ces premiers moments de liberté. Retrouvé avec modération, bien sûr, le couvre-feu est repoussé à 21h. Les policiers dans la rue, deux semaines après la mort d'Éric Masson, tué à Avignon. Ils se mobilisent aujourd'hui à Paris pour réclamer plus de sévérité pour les agresseurs des forces de l'ordre. Karim Benzema fait bien partie des 26 joueurs retenus par Didier Deschamps pour disputer l'Euro de foot. L'épreuve débutera le 11 juin prochain. Et puis Monaco affronte le PSG ce soir en finale de la Coupe de France. Match à suivre en direct et en intégralité sur Europe 1. Début de la soirée spéciale football dès 20h sur Europe 1.
écoutez Le Monde Changé avec Théo Manval sur Europe 1.
La France bouge, les Français ont des idées, on vous le montre tous les jours sur Europe 1. Et avec vous, Cédric Chasseur, nous allons dans le Finistère aujourd'hui.
Et on va se mettre tout de suite dans l'ambiance. Fermez les yeux, Théo. Vous êtes au bord de la mer.
Ouais.
Direction le Conquet, au bord de l'océan Atlantique. C'est une terre de pêche, une cité maritime.
Très joli petit port.
Qui dit pêche, dit bateau. Et parmi les outils utilisés pour remonter les poissons, il y a des filets qui parfois s'abîment, se cassent. Et le problème, c'est qu'ils sont fabriqués à partir d'un dérivé de plastique. Quand les pêcheurs ne peuvent pas les réparer, pour s'en débarrasser, ils les brûlent ou les enfouissent. On a connu plus écologique. Une entreprise de la pointe finistérienne, Filenfab, a donc décidé de s'attaquer à ce problème en recyclant les filets de pêche.
Et alors, comment ça marche?
Eh bien, les pêcheurs ont une benne à leur disposition sur le port où ils déposent les filets. L'entreprise du Conquet en a récupéré plus d'une tonne l'année dernière et ces filets vont servir de matière première pour un objet. À votre avis, Théo, qu'est-ce qu'on peut faire avec des filets ?
C'est quelque chose qui ressemble à du nylon, donc quelque chose d'un peu solide, je ne sais pas du tout.
Un peu solide, oui, ils fabriquent des lunettes de soleil.
C'est pas vrai.
Les filets sont nettoyés, réduits à l'état de pâte avant de devenir des granulés de nylon. Et c'est ce qui servira de base à nos lunettes de soleil. À la fin de l'année 2020, ils avaient réussi à créer 4000 paires de lunettes de soleil. Un autre outil du quotidien des pêcheurs qui, en plus de faire une bonne action environnementale, peuvent désormais se vanter de porter les lunettes les plus écologiques qui soient.
C'est édifiant. Merci beaucoup Cédric Chasseur. Vous partagez avec nous vos bonnes idées, vos initiatives. Écrivez-nous sur les réseaux sociaux, hashtag Europe 1. Et la France bouge aussi sur le web. Martin Lange, qu'est-ce qui anime les réseaux sociaux ?
Eh bien, c'est évidemment la liste de Didier Deschamps pour l'Euro et un nom.
Attaquant, Karim Benzema.
Voilà, la ferveur sur Twitter, hein, la rumeur enflée depuis 24 heures, c'est désormais officiel. Benzema de retour en bleu et forcément ça enflamme les réseaux. Hein. Benzema a cassé Twitter, écrit-il, plus d'un million de mentions depuis hier soir.
Un million.
Un million, deuxième tendance dans le monde, hein, avec des publications inspirées. Hein, croisons-les, hein, de Guillaume Tessé qui fait de Benzema The Revenant. Beaucoup de détournements d'une une du journal L'Équipe aussi, hein, très célèbre Il revient, c'était pour Zidane en 2005. Ça marche aussi pour Benzema en 2021. Et puis un autre tweet, hein, qui vous a beaucoup plu, je crois Théo, hein. Celui de l'équipementier du buteur en ce jour de déconfinement. Terrasse, cinéma, Benzema, le vrai retour à la normale.
Les joueurs ont aussi réagi.
Oui, le principal intéressé, d'abord un Benzema qui s'est dit hier soir tellement fier de ce retour en bleu, et puis ses partenaires aussi, alors que certains craignaient l'intégration du Madrilène dans un groupe en parfaite harmonie, visiblement pas d'inquiétude. Kylian Mbappé a même exprimé sa fierté de pouvoir jouer avec une de ses idoles avec cette photo où les deux joueurs se tapent dans les mains et s'efflament en légende. Hein. Parce que sur le papier, il faut le dire, l'équipe de France a une attaque de feu et c'est tout le football français qui en salive déjà, hein, comme SoFoot. Griezmann, Mbappé, Benzema, c'est autorisé par la Convention de Genève cette attaque, demande-t-il.
Mais puis comme souvent avec Benzema, le débat a rapidement quitté le carré vert pour devenir politique.
Là encore, il y a ceux qui se réjouissent, hein, comme Rachida Dati qui a félicité Benzema hier soir. Et puis il y a les autres, notamment au RN, où on déplore largement ce retour. Le sénateur Stéphane Ravier va même jusqu'à qualifier Benzema de français de papier en réclamant sa sélection pour l'Algérie. Une sortie qui passe très mal. Les rares fois où Ravier marque, c'est toujours contre son camp, rétorque Christophe Castaner. Allez, moi je préfère finir sur une note positive et ces centaines d'internautes qui se réjouissent de la main tendue de Dédé, le vrai Rassemblement National pour Thomas Ndjijol. Merci Dédé pour ce symbole fort. Maintenant, il ne reste plus qu'à gagner l'Euro.
Effectivement, merci Martin, merci Cédric, à tout à l'heure. À 14h, votre rendez-vous comme tous les jours avec On de la Traconte. Et aujourd'hui, l'histoire extraordinaire de la construction de la Tour Eiffel dans la perspective de l'exposition universelle de 1889. Gustave Eiffel et ses collaborateurs imaginent une tour de 300 mètres en format pyramidal. Vous pensez connaître la suite ? Découvrez le récit façon On de la Traconte. C'est à 14h, à télécharger dès maintenant sur Europe1.fr.
Europe Matin, le 5-7. Théo Manval.
6h05 sur Europe 1, l'heure de s'intéresser à notre planète. Bonjour Fanny Agostini.
Bonjour Théo, bonjour à tous.
Ce matin, vous revenez sur l'expérience de la dépollution des sols par les plantes dans des communes polluées du sud de la France.
Oui, appelé phytoextraction ou phytostabilisation, ce processus consiste à cultiver des plantes gourmandes en métaux lourds sur des sols pollués par les activités industrielles passées et présentes. À Saint-Laurent-le-Minier, dans le Gard, l'extraction de plomb et de zinc jusque dans les années 90 a laissé dans le sol un taux de concentration de métaux lourds 500 à 800 fois plus élevé élevée que le seuil autorisé. C'est un aléa sanitaire de taille et un véritable poison. Alors, pour réhabiliter ces anciens terrains d'extraction, un laboratoire mène actuellement une expérience de phyto-extraction avec deux plantes qui raffolent de zinc et de plomb et qui vivent bien dans ce milieu hostile. Ces deux plantes magiques sont le tabouret des bois et l'antilide vulnéraire.
Le tabouret des bois. Alors concrètement, comment est-ce que ça fonctionne cette phyto-extraction ? Qu'est-ce qu'on fait des plantes aussi une fois qu'elles ont rempli leur mission ?
Alors, les scientifiques utilisent ces plantes dites hypercumulatrices car elles peuvent stocker dans leurs tissus de grandes quantités de substances toxiques. Les plantes utilisées dans le Gard peuvent, par exemple, stocker jusqu'à 2% de métaux lourds dans leur organisme. Avec ce rythme de stockage, les chercheurs pensent qu'on parviendrait à dépolluer des sols ruinés en à peine 5 à 10 ans. Mais la bonne nouvelle va encore plus loin. Les plantes hypercumulatrices peuvent être broyées pour qu'on récupère les métaux lourds d'un côté et la biomasse de l'autre, d'une pierre de coup donc, les métaux peuvent être réemployés dans l'industrie et la biomasse dans la production d'énergie. De cette manière, les végétaux deviendraient de nouvelles mines d'extraction. Les scientifiques ont d'ailleurs inventé un nouveau mot, on parle d'agromine.
Et vous nous dites que cette nouvelle technique d'agromine offre des débouchés pour les agriculteurs dont les sols sont devenus incultivables ?
Oui, les scientifiques recensent désormais quelques 400 plantes qui pourraient servir à la phyto-extraction. Parmi elles, l'espèce Allison des murs, qui est en train de venir à la rescousse d'agriculteurs albanais. Sur leurs terres, notamment saturées en nickel. L'Allison des murs peut absorber de grandes quantités de nickel et les agriculteurs peuvent alors vendre leurs cultures à des laboratoires qui en extraient le métal, ce qui leur rapporte un revenu 3 à 4 fois supérieur à celui de leur culture traditionnelle. Voilà qui fait d'eux des paysans d'un genre nouveau, des agriculteurs ou plutôt des agro-mineurs au service de la dépollution des sols.
L'agro-mine, merci Fanny Agostini, on vous retrouve demain.
Europe Matin, le 5-7. Théo Manval.
Bienvenue à tous sur Europe 1. Si vous nous rejoignez au réveil, il est presque 6h en ce mercredi 19 mai.
Quelqu'un est jugé pour avoir agressé un fonctionnaire de police, lui avoir infligé 21 jours d'incapacité totale de travail. Il prend 6 mois de prison ferme, mais sans mandat de dépôt. Donc en fait, c'est quelqu'un qui ne va pas en prison, pas une seule minute. Aujourd'hui, ça nous pose un réel problème de message envoyé à ces agresseurs.
Manifestation des policiers cet après-midi à Paris pour demander des peines de prison minimum automatiques pour ceux qui les agressent. Deux agents tués dans les rangs des forces de l'ordre ces dernières semaines. Mon invité à 6h40, Christophe Rouget, du syndicat des cadres de la sécurité intérieure, pour un point de constat et son regard aussi sur la présence de nombreux politiques dont le ministre de l'Intérieur attendu au rassemblement tout à l'heure. Jusqu'à 7h, la revue de presse internationale nous emmènera d'Espagne au Maroc en passant par la Turquie où un mystérieux chef mafieux fait trembler l'autorité d'Erdogan. Et puis comme tous les jours, notre respiration musicale. Il est l'inventeur de la world music, enrichissant ses compositions de sons venus des quatre coins de la planète, Peter Gabriel, dans la partition d'Omblin Roche tout à l'heure, à 6h25. Mais avant cela, Laurent Cabrol, c'est l'heure de la météo.
Quel casse-tête, mes amis, quel casse-tête. Oh là là là, comment résumer le temps d'aujourd'hui pour que chacun ait sa bonne prévision. Sur le nord, la Picardie, la région parisienne, la Normandie, prévoyez un temps agité, pluvieux. Sur Paris, ça ira pas bien du tout dans l'après-midi, mais beaucoup mieux dans la soirée. Si vous avez un choix à faire, c'est plutôt la soirée. Sur la Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace, Bourgogne, Berry, Auvergne, Franche-Comté, Rhône-Alpes, un temps instable progressivement. Toute la journée, nous aurons toujours cette instabilité avec quelques éclaircies, mais c'est pas folichon non plus, avec sur Lyon, un peu le même temps qu'à Paris, c'est-à-dire le pire dans l'après-midi et le meilleur en soirée. Et puis sur la vallée de la Loire, le Limousin, Poitou-Charentes, tout le sud-ouest, les Cévennes et la Bretagne, pas mal. On va vers une amélioration, même si ça n'est pas le cas en ce moment, on va vers le mieux. Et enfin en Méditerranée, du soleil avec du vent, malheureusement, Mistral et Tramontane, c'est plutôt la Tramontane, 70-80 km/h. Température maximale entre 14 et 18 degrés, j'affine, je reviens.
Merci Laurent, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7, Théo Manval.